La semaine belge.
Rectangle. Bonjour à tous.
La vie rectangulaire.
Merci d'être venu. Ça nous fait très chaud au cœur pour cette petite rencontre organisée par le FLIF. Donc, le FLIF, qu'est-ce que c'est ? C'est la Fédération des labels indépendants francophones. Association née en décembre 2017, donc c'est tout nouveau, à l'initiative d'un groupe de labels indépendants en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont Frixville Records, que je représente, Lug Records, qui n'est pas là pour le moment, Black Bassett Records, là-bas, Humpty Dumpty Records, Exag Records et Subfield. Donc, les objectifs de notre fédération, le FLIF, c'est d'abord de représenter les labels et producteurs indépendants actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles et de promouvoir leur diversité culturelle, de dynamiser la production et la diffusion d'enregistrements sonores et d'artistes musicaux, de défendre les intérêts du secteur ainsi que les structures d'encadrement des artistes dans le secteur des musiques actuelles, de fonctionner comme un réseau entre ses membres et les associations nationales et internationales représentant des intérêts similaires, être un intermédiaire en charge de négociations groupées entre ses membres et des prestataires de services. Tout ça est un petit peu théorique, mais bon, voilà. Le FLIF apporte donc son soutien aux structures membres de la SBL dans le but d'améliorer les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité, avec pour finalité la valorisation optimale des productions musicales financées par ses membres en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, donc comme ça vous savez ce qu'est le FLIF. Et donc ce module, on va parler des labels indépendants, de comment on fait un label indépendant, qu'est-ce que c'est, etc. Donc j'ai à mes côtés trois membres émérites de label. Là dans le fond, nous avons Christophe Ars, qui a créé le label Humpty Dumpty. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Didier Gosset.
Bonjour.
Black Bassett Records.
En effet.
Label de Bruxelles, mais migré à Charleroi maintenant, si j'ai bien compris.
C'est bien cela.
Et Geoffroy de Wandeler, toi tu as un label qui s'appelle Subfield.
Tout à fait, je sors principalement mes productions, mais je signe d'autres artistes aussi quand je peux.
Donc raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé cette histoire-là, de te dire voilà je suis un artiste et puis hop, je crée un label. Quelle était la situation à l'époque, etc.
Moi j'ai travaillé j'ai eu quelques expériences dans des labels, j'ai créé un autre label avant que j'ai terminé, où je sortais pas de disques à moi, c'était que des maxis de DJ, et après j'ai sorti énormément de disques sur des labels divers, et à un moment donné je me suis dit je vais quand même faire mon album, et j'ai pas réussi à le vendre à aucun label, et j'ai donc créé ma propre structure, j'ai créé une SBL. Et j'ai recherché des partenariats de distribution et de licence. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de sortir aussi des disques d'autres artistes de manière plus confidentielle. Parce que c'est quand même un gros travail tout seul, à sa maison le soir. Donc c'est compliqué. Et voilà. La démarche était surtout de pouvoir exister en tant qu'artiste et de sortir mon label à moi, mon disque. Voilà.
Subfield est né quand, donc ce label est né quand?
Je l'ai créé en fin 2014, j'ai sorti quelques maxis et puis j'ai sorti l'album.
Ok cool, on verra sur ton label le long et en large pendant la conférence. On va parler avec Didier d'ailleurs, parle-nous un petit peu, comment est-ce que c'est possible qu'un label, comment ça s'est créé, et puis pourquoi est-ce que ça a migré à Charleroi aussi? Ça c'est quand même une...
D'accord, deux grosses questions. La première concernant le label, en fait pendant des années avant le lancement du label en 2013, j'ai fait partie d'un collectif qui organisait des concerts à Bruxelles, dont le seul principe de fonctionnement était si on aime bien on les fait jouer... surtout si personne d'autre n'est intéressé, qui est une approche économique assez casse-gueule, il faut bien en convenir, un excellent moyen de perdre de l'argent. Du coup, on a aussi rencontré beaucoup de gens, puisqu'on a quand même organisé une bonne grosse centaine de concerts sur une période de 6 ou 7 ans. Et effectivement, il y avait d'un côté la lassitude par rapport à cette impression de jouer en permanence, d'être un flambeur compulsif, parce qu'organiser des concerts, c'est... puis je perds, je me refais, donc je recommence, donc je vise plus haut, mais on a perdu. Enfin voilà, tout ça pour vous donner une idée financièrement, au bout de 100 concerts, on avait 600 euros en caisse, et on s'était fait surnommer la Rolls-Royce de l'associatif bruxellois. À un moment, bon, je me suis dit, ok, on va essayer autre chose, donc quitte à être complètement inconscient, autant se lancer dans la production de disques, au moins là, on a beaucoup plus de chances de perdre. Et donc, en fait, on s'est lancé en 2013 avec les sorties de deux groupes qu'on avait fait jouer, qui étaient des gens qu'on connaissait, qui étaient Mondoré, Billions of Comrades. Et tout est parti de là, et voilà, 5 ans plus tard, on va bientôt fêter notre 25e sortie. Et globalement, en fait, ça se passe assez bien.
Cool, ça.
Je dois vraiment répondre à la question sur Charleroi ou...
Non, c'était pour... C'est voilà. Quoi, parce que tu as déménagé ou...
On a déménagé à Charleroi, mais je ne suis pas mandaté par l'Office du tourisme de Charleroi-Sud pour répondre à cette question.
Et l'ambiance est mieux au niveau
de
la belle.
C'est 10 000 fois mieux que les pets de cul de Bruxelles Sud, je tiens à le dire. Des autres.
Ah, tu vois, c'est coupé. Je vais passer peut-être ce micro-ci parce qu'il fonctionne mieux, visiblement.
Il ne revient plus ici.
Ah, voilà, il est revenu. Revenu.
Donc, ça, c'est un coup de la mafia du MRU Clois. Mais voilà.
À côté de toi, nous avons un vétéran, un peu le Rambo de la scène indie bruxelloise, qui lui aussi organisait des concerts, je pense, avant de faire la belle, non?
Ouais, tout à fait. C'est un peu le même principe que Didier. C'est à la base, on organisait des concerts. C'était un peu le même principe, en fait. Des trucs qu'on voyait, qu'on nous proposait, qui ne trouvaient pas de date sur Bruxelles. Donc personne n'en voulait, globalement. Donc on l'a fait nous-mêmes. Excellente manière de perdre de l'argent. Mais assez ludique. Et donc, tout est parti de là. Et alors, du fait que j'ai travaillé aussi pendant quelques années à un magasin de disques qui s'appelait Le Bonheur. Et donc, via là, on avait quand même déjà... on recevait aussi beaucoup de gens, d'artistes qui venaient déposer des démos, voilà, qui voulaient qu'on écoute leur musique. Et c'est parti un peu de là, du fait d'avoir des contacts via le magasin et aussi par l'organisation des concerts. Et la première sortie, c'était l'album de Miel. Et c'était voilà, un peu une opportunité. On les avait fait jouer avec Françoise Breu lors d'un festival. Et puis, ils avaient un album qui était prêt à ce moment-là. Et voilà, on se dit pas pourquoi pas, on va se lancer. Il n'y avait rien d'autre derrière, il n'y avait que cet album-là. Donc après, ça a pris un peu de temps à se mettre en route. Mais dans un premier temps, voilà, on s'est dit on va tester. On ne connaissait pas grand-chose. Enfin, il y avait quand même un peu de connaissances sur la distribution et les réseaux de distribution via le magasin. Et on avait pas mal de contacts, mais à part ça, on s'est un peu lancé comme ça, en chien fou, je dirais. Et voilà, ça fait maintenant, ça fait 12 ans que ça existe. Et on a 36 sorties. Que dire de plus ?
Moi, j'ai une question quand même. Je vais commencer par toi. Comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on monte? Bon, il faut faire une sortie, la première, on va dire, d'un label. Bon, soit, toi, je pense, dans ton cas, c'était ta sortie, je pense, la première sortie de Subfield. Comment est-ce qu'on finance ça? Comment est-ce qu'on trouve? Il faut trouver les réseaux de distribution, je suppose. Il faut dire, voilà, j'ai créé un label. Enfin, explique-moi un petit peu comment tu as mis en place ces premières sorties, en tout cas, et quelles étaient tes facilités, mais aussi les difficultés que tu as pu rencontrer au début.
Alors, d'abord, il faut mettre un petit peu d'argent de côté pour les premiers frais. Donc, ça, c'est. J'ai commencé avec 2-3 000 balles. Voilà. Et puis, surtout, il faut trouver des partenaires de distribution qui financent à ta place et qui ont de la trésorerie pour fabriquer ton vinyle si c'est possible. Ça s'appelle un P&D en distribution. Ça peut être en licence chez d'autres distributeurs, ce que j'ai fait aussi. Donc, j'avais quand même un réseau du fait d'avoir travaillé. Dans certains labels et je me suis adressé à un maximum de gens pour voir avant je travaillais avec discographes avec mon premier label, c'est eux qui finançaient le vinyle, là maintenant je travaille avec K7 qui est une grosse structure indépendante en Allemagne et qui a des bureaux à Londres et qui donc finance aussi une partie des coûts. Comme c'est mon label, je ne sais pas eux qui financent tout, mais bien entendu, je finance toute la promotion et la production. Donc, et puis essayer de, dans mon cas, essayer de trouver des petites subventions quand c'est possible, de les absorber. Voilà. C'est un travail ultra chronophage et faut avoir envie, quoi.
Quelle est la différence, par exemple, entre la musique électronique, qui est un réseau quand même, à part par rapport au vinyle, est-ce que ça fonctionne différemment, je veux dire? Est-ce que tu as un réseau déjà qui est établi? Est-ce que les vinyles circulent toujours comme c'était le cas dans les années 90, quand tu fais de la musique électronique, ou quoi, ou casse? Enfin, voilà, je voulais demander s'il y a une différence avec le rock, par exemple.
Oui, je pense qu'il y a une petite différence, et surtout qu'avant, la musique électronique ne vivait que... enfin, était rentable que sur le vinyle, et la disruption digitale a modifié une longue période sans revenus, Et c'était un gros problème, et c'est toujours un risque de sortir du vinyle. D'ailleurs, j'ai sorti trop de maxi, et j'en ai encore plein, il y en a en haut, si vous voulez. Et donc voilà, mais le vinyle, maintenant, est devenu une sorte d'objet fétiche, et on existe un peu dans l'inconscient des gens si on a une sortie vinyle, ce qui n'est pas vraiment le cas si c'est que digital, bien que la plupart des gens l'achètent quand même aussi en digital, mais c'est pas très rentable. Donc par rapport au rock, c'est hyper important d'avoir un objet au concert, surtout le vinyle à vendre après les concerts, je pense. Donc c'est vraiment un plus, quoi.
Et toi, cher Didier, quand as-tu monté ces premières sorties ? Donc avec l'argent de la caisse des concerts, qui était vide, ou justement tu as dû mettre un petit peu de ta poche de ton compte kangourou, quel compte qu'on avait là, au Crédit Communal jadis ?
Non, effectivement, c'était bien l'idée compte kangourou. On a mis, je pense, 4000 euros de côté au début, vraiment pour se lancer à la hussarde en se disant « Ok, on va financer les pressages, faire un petit peu de promo, avoir des CD promo et autres. » Et on est parti comme ça, sans même trop se poser de questions sur l'encadrement des groupes, sur la distribution à l'époque. Ce sont des choses qui sont vraiment venues au fur et à mesure. On a globalement la chance de travailler avec des projets qui tournent quand même pas mal. Donc l'essentiel de nos ventes se font en fait au concert, ce qui est bien entendu la meilleure solution puisque c'est là qu'on prend les plus grosses marges. Et encore à l'heure actuelle, en fait, on travaille avec des approches très différentes selon les projets. On a des projets pour lesquels on a vraiment une distribution nationale qui est en place, même dans d'autres pays aussi. On en a d'autres où... la distribution se résume, et je parle de distribution physique, entendons-nous, la distribution se résume vraiment à des quantités très très minimales. Mais on est parti effectivement voilà, en se disant, ok, au pire, si on est vraiment très très con, ben, on perd 4-5 000 euros et voilà.
Il y avait donc une petite politique d'investissement de la part de chacun pour pouvoir lancer le projet. C'est obligatoire, quoi. Il faut mettre de côté. Si on veut créer un label indépendant, il faut mettre de côté ou trouver quelqu'un qui a mis de côté, éventuellement. Toi, Christophe, c'est simple, tu as piqué dans la caisse du magasin dans lequel tu travaillais pour financer ta première sortie, si j'ai bien compris.
Même pas. pareil, j'ai investi aussi 3-4 000 euros, je dirais, un montant comme ça. Et puis après, j'ai hypothéqué ma mère, mais c'est venu plus tard dans l'histoire du label. Mais oui, là, c'était une petite mise de base. Et le fait est que cette première sortie, finalement, c'est celle qui a le mieux fonctionné, encore jusque maintenant. Donc on a vite réussi à la rentabiliser, on a pu ressortir des trucs assez rapidement, ce qui n'a pas été toujours le cas par après. Mais au début, ça s'est fait finalement assez, de manière assez cool, quoi.
Et par rapport aux frais, à ces frais de 4, 5 000 ou 2, 3 000 euros, c'est quoi ? C'est des frais de production, d'enregistrement ? Est-ce que c'est des frais où l'artiste vient déjà avec... un produit, je dirais, une musique déjà finie, et il vous demande de générer des frais autour de le pressage d'un vinyle, d'un objet, ou d'un clip, ou de la promo. Ou est-ce que vous avez un investissement aussi dans la production artistique de vos labels ?
Ben, dans mon cas, sur cette première sortie, c'était un album qui était enregistré et mixé. Donc, si je me souviens bien, j'ai dû payer le mastering, et puis après, la production du CD et la promotion. Et après, c'est venu le fait de vraiment produire des disques et d'investir plus d'argent, c'est venu plus tard dans l'histoire du label. Au début, c'était plutôt des gens qui venaient avec des projets qui étaient, entre guillemets, déjà terminés, avec des produits finis. Et puis maintenant, on revient, c'est un peu marrant parce qu'il y a une sorte de boucle. Ces dernières années, on revient plutôt dans cet état d'esprit-là, où on est dans l'esprit plutôt d'une licence, avec des gens qui amènent des albums... entre guillemets, fini, quoi.
Oui, donc ton job, alors, c'est de se faire le suivi, alors de presser l'objet, faire la promotion, etc. Toi aussi, c'est comme ça, toi, Didier, où tu vas dans le studio, tu donnes ton avis, tu dis, là, il me semble que la basse va pas assez fort.
Alors, j'ai déjà été plusieurs fois en studio, mais on n'a jamais payé pour, donc on se permet juste d'être très critique sans même mettre un copec sur la table. Non, en fait, une fois de plus, c'est très variable d'un projet à l'autre. Mais on n'est jamais financièrement intervenu avant le mix et le mastering. Donc vraiment sur les frais de studio et autres, c'est quelque chose qu'on n'a tout simplement pas les moyens de faire. Sachant aussi que voilà, on a des accords avec les groupes avec lesquels on travaille, ou par exemple, comparé à des plus gros labels, on ne va pas nécessairement prendre un pourcentage sur les revenus du live, et donc il y a toujours l'idée que voilà, s'ils tournent sur un album, c'est quelque part là que l'argent va rentrer pour payer l'investissement de départ. Mais comme le disait Christophe, oui, on est essentiellement dans une logique de licence. C'est-à-dire qu'on commence à travailler à partir du produit fini, enfin masterisé, qui nous est fourni, à quelques rares exceptions près.
Ça veut dire donc que les groupes, les artistes viennent, ont déjà investi dans un studio, ont déjà leur produit, quoi, hein, ils viennent avec leur master, et à partir à ce moment-là, vous prenez la suite du travail. Et c'est quoi? C'est une coproduction alors? C'est une, enfin, un deal de licence? C'est-à-dire que le groupe, bah, il investit autant et vous trouvez une solution pour que chacun s'y retrouve? Comment est-ce que ça se passe?
Effectivement, oui, généralement, le deal de licence, voilà, il y a toute une partie du travail si on fait un contrat. Je dis bien si, parce que dans certains cas, voilà, c'est des gens dont on est très proche et simplement on va de l'avant ensemble en se disant que tout ira bien. Bon, jusqu'à présent, on ne s'est jamais cassé la figure avec ça. Mais effectivement, si contrat il y a, oui, il tend à prévoir qui fait quoi et qui est rémunéré à hauteur de tel ou tel pourcentage pour tel ou tel type de prestation. Oui, ça c'est très simple. C'est un contrat assez type. C'est un contrat qui est téléchargeable en ligne et qui suffit, entre guillemets, de modifier selon les besoins. Mais ça reste l'idée. Bon, il se fait que nous, on est un peu punk à chien sur les bords, donc il y a pas mal de projets avec lesquels on travaille, pour lesquels on n'a jamais signé de contrat. Sachant, pour la parenthèse bruxello-wallonne, que si un jour vous êtes dans un projet et que vous faites une demande d'aide dans l'enregistrement ou autre, vous devrez bien entendu avoir un contrat. Au niveau institutionnel, ça passe assez mal de dire « je suis un punk à chien, on se lance et on verra comment ça se passe ».
Toi, c'est un peu différent, toi, Geoffroy, parce que toi, tu interviens dans la production, quand même, vu que tu es quand même producteur de musique électronique, donc c'est une approche différente, quand même.
Oui, ces frais-là, je ne les compte pas dans mes budgets de label, donc ça, c'est ma part d'artiste, mais quand je signe, les peu d'artistes que j'ai signés, c'est toujours des deals 50-50, ils viennent avec la musique finie, mixée, et moi, je la mets en orbite, et je paye j'avance les frais, et je les déduis à la fin... Mais c'est 50-50 et tout, voilà, tous les frais sur lesquels on se met d'accord sont avancés par le label, c'est-à-dire moi, la promo en général, l'artwork, voilà, et quelques frais de distribution, de stock, des trucs comme ça.
Tu as aussi pas mal de titres avec des featuring, par exemple. J'ai vu que tu as fait une avec Luke Jenner, par exemple. Comment est-ce que ça se passe là? C'est un travail artistique commun, c'est-à-dire
Bon alors, j'avais fait un maxi pour le label de The Rapture, qui est un groupe new-yorkais sur lequel chantait Luke Jenner, et via le label, j'étais en contact avec lui et tous les avocats de chaque territoire, de Sony, de partout, coop, donc on a fait ça a duré des mois et tout, et il m'a envoyé un featuring sur un morceau, et il avait pas mis le bon BPM et tout, j'ai dû tout, enfin c'était une catastrophe, et j'ai dû mettre des tonnes d'effets, machin. Oui, mon morceau était à 100 BPM, et il l'avait enregistré à 120, il avait mal, et je dis mais ça va trop vite, oui mais j'ai pas le temps, je pars en tournée avec Rapture pendant un an, tu vas attendre un an, je fais non ça va aller, et donc voilà, j'ai sorti le disque, voilà, j'envoie des statements, mais ça va, c'est pas très dangereux.
Et outre l'aspect, je dirais, du nom, 50-50. Oui, c'est 50-50, mais outre l'aspect du nom, par exemple, ici dans le cas de featuring, il suffit qu'il n'y a pas vraiment, il y a quand même une rencontre artistique, ou pas du tout, c'était juste un effet de. Voilà, peut-être nous parler un peu de cette culture-là, parce que quand on fait un featuring en rock et tout ça, généralement avec des gens qu'on aime plus ou moins, ou qu'on connaît, mais peut-être dans le cas de la musique électronique, c'est un peu différent.
Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai toujours fait de la musique électronique de dance floor, et je voulais passer un format album, et je ne chantais pas. Donc il me fallait des featuring vocaux, et donc j'ai fait des demandes à qui a bien voulu me répondre, j'en ai fait beaucoup, et mais j'ai eu quand même quelques chouettes retours, sauf que voilà, je suis absolument pas intervenu sur le processus créatif, je les ai pas rencontrés, la plupart je les ai jamais vus, c'est que par mail, et c'est très courant maintenant, voilà, on s'échange les parts par WeTransfer, et voilà, si ça colle, ça colle, j'ai retravaillé en studio, et voilà, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que... Après, quand j'ai pensé à faire un live pour ça, ben, j'allais pas faire venir les mecs parce que c'était pas rentable déjà non plus. La plupart, ils sont dans d'autres pays, donc c'était pas jouable. Et c'est pour ça que sur mon nouvel album, c'est moi qui chante. Voilà, ce que je faisais pas avant. Et voilà, donc c'est plus facile.
J'aimerais parler un petit peu de label, mais aussi de l'image du label. Le logo, le graphisme, l'image générale du label. Comment est-ce que ça se passe, ça? Est-ce que l'image est venue petit à petit ou directement il a fallu trouver un logo et c'était celui qui était là? Est-ce que ça a évolué aussi l'image? Qui travaille ça chez vous? Peut-être Didier, tu aurais... Est-ce que tu as un logo? Peut-être avec une histoire à nous raconter autour de ce logo.
C'est une histoire empreinte de beaucoup de professionnalisme. Donc le label Black Bassett Records, en fait on savait qu'on voulait avoir un basset noir comme logo parce qu'à la maison on avait un basset noir à l'époque, donc ça, déjà la réflexion a été poussée très loin. Oui, le basset est décédé depuis malheureusement. Et on s'est retrouvé à feu le Century Festival à Moucron, où jouait à l'époque Siamese Queens, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, et suite à une discussion légèrement alcoolisée sur le coup de 23h30 avec Alex Weber, qui s'est terminée par « Ouais gros, c'est bon, je te le fais demain matin ton logo », et bien effectivement, le lendemain, en retour de soirée, il avait fait le logo, et en fait on l'a gardé tel quel. Voilà, une fois de plus, c'est un peu comme Universal Music, mais en version ennuyère. Voilà, il y a eu énormément de brainstorming. Et en fait, on est parti depuis, et Alex a bougé au Québec, et on n'a même plus tous les masters du logo avec les déclinaisons. Donc voilà, on en est là. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites quand même. On est très content. Bon, le chien est décédé entre-temps de vieillesse, mais on ne va pas changer pour autant. Voilà.
Le logo Dumpty Dumpty a été créé par Gwenola Carrère, qui était une illustratrice qui a fait la pochette de notre deuxième sortie, qui était un vinyle split avec, entre autres, Alpha Sleep. Et en fait, elle faisait des affiches de concert pour la ferme du Béraud, surtout. Et donc, voilà, on l'a connue comme ça en fréquentant la ferme du Béraud à l'époque où il y avait pas mal de concerts de musique folk, psyché. Avant la ferme du bureau, plus institutionnelle, quoi. Du côté, dans les écuries, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais depuis, voilà, elle décline encore de temps en temps l'identité, mais ça n'a pas vraiment changé, c'est juste un peu décliné selon les formats et les nouvelles demandes pour les réseaux sociaux et compagnie, quoi. Le nom du label, ça vient d'Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, j'ai une petite, un début de collection d'exemplaires d'Alice au Pays des Merveilles, et j'aimais bien ce mélange entre psychédélisme, c'est un truc qui m'a toujours parlé, voilà. Et il n'y a pas eu de grande réflexion, tu vois.
Et toi, c'est fort travaillé, toi, quand même, on voit tout de suite beaucoup qu'il y a un aspect plus publicitaire derrière ton label, non?
Moi je fais pas mal d'événements et j'ai travaillé avec beaucoup de graphistes, donc j'ai confié la recherche graphique à un des graphistes qui s'occupe des soirées Leftorium, donc c'était Nuno Pinto da Cruz. Il m'a remis à peu près, j'étais très chiant, je crois qu'on a eu 300 logos, donc j'exagère, mais vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ce logo, et c'est le subfield, c'est le sous-champ de la musique, parce qu'on travaille beaucoup avec des sous-genres, et voilà, ça va pas plus loin que ça.
Moi j'ai une question encore par rapport à l'image, parce qu'on est quand même au Wills ici, Independent Label Market qui se trouve dans le sous-sol du Wills, musée, qui dit musée d'art. Au niveau des pochettes par contre, est-ce qu'il y a une identité commune graphique à vos sorties, ou est-ce que c'est au cas par cas selon les artistes, selon les genres? J'ai l'impression que toi tu soignes quand même une espèce de collection.
Pour les maxi, j'ai beaucoup d'images de... C'est du vol en fait, c'est assez identique. Pour les albums, c'est chaque fois différent. Pour mon nouvel album, c'est ma femme qui m'a fait la pochette. Voilà, c'est génial.
Alors nous, on n'a absolument pas cette idée d'unité sur tout le catalogue du label. En fait, au contraire, c'est quelque chose vraiment qu'on laisse entièrement au choix des groupes. Forcément, on en discute avec eux, mais en tout cas, à mes yeux, c'est toujours l'identité artistique d'un projet qui doit primer sur l'idée d'une quelconque ligne collection de labels. Donc effectivement, après 25 sorties, c'est complètement disparate, mais quelque part, c'est à l'image des projets qu'on sort, qui sont eux-mêmes assez variés et différents. Donc on a vraiment personne qui est récurrent en termes d'illustration.
Ben nous, au niveau de l'image du label, dans les sorties, à la base, il y avait une envie, qui vient justement aussi du nom Dumpty Dumpty, c'était de travailler avec des illustrateurs. Donc pendant longtemps, je ne sais pas jusqu'à quelle sortie exactement, mais on a fait toujours appel à des illustrateurs, à des dessinateurs ou à des graphistes avec vraiment une idée d'avoir pas de photos, par exemple. Et c'est après, quand on est arrivé plus dans des deals de licence ou des trucs comme ça, où il y avait déjà des artistes qui avaient déjà vraiment une illustration et des idées très précises de ce qu'ils voulaient, où on a commencé un peu à dévier de ça. Et maintenant, on est, voilà, c'est, il y a plus vraiment de. J'aime toujours bien l'idée de travailler plutôt avec des illustrateurs, mais c'est plus cohérent comme ça aurait pu l'être au début.
Autre question, c'est-à-dire que quand on a ces beaux objets en grande quantité, où est-ce qu'on stocke ça ? C'est toujours une question qui me taraude, mais qui est quand même un aspect logistique assez pratique. Est-ce que vous avez trouvé des trucs et astuces pour entreposer, on va dire, la marchandise ? Je sais par exemple que chez moi, il y a des caisses un peu partout. Est-ce que vous avez des dépôts ou un plan à me donner, peut-être ?
Ça reste pendant un certain temps chez les distributeurs, et après, ils te font payer l'entreposage. Donc, les retours reviennent dans mon salon, à la maison, le soir.
Même chose, une fois de plus, je pense que c'est assez récurrent pour des petites structures qui n'ont pas nécessairement de bureau. Ce qui n'est pas vendu et ce qui n'est pas quelque part en distribution ou en distro est dans une caisse à la maison. Voilà, très simplement. Ne fût-ce que parce qu'on gère aussi le mail order pour tous nos groupes directement, donc les gens peuvent commander sur toute une série d'interfaces et tout ça va atterrir chez nous, donc on s'occupe de tous les envois. Et donc, a fortiori, il faut aussi qu'on ait des stocks sous la main, quoi qu'il arrive.
Moi, j'ai un petit. Ouais, j'ai pas mal de, quand même, de cartons dans l'appartement qui traînent. Donc, j'ai une série de. Un peu de tout en petite quantité. Et le gros du stock est dans ma chambre d'enfance, chez ma mère. Ça fait une super déco.
Il faut éviter donc les endroits humides aussi, j'imagine. Ou les caves, etc. Oui, les vinyles plient facilement. Toi qui as déjà. Explique-nous un petit peu les conditions de stockage d'un vinyle, par exemple.
En hauteur, pas dans une cave. Si tu veux faire attention, il ne faut pas les mettre les uns sur les autres, mais c'est bien de les mettre dans des belles armoires Ikea expédites. Moi j'ai à peu près 10 000 disques, maintenant j'en ai vendu pas mal à la maison, donc voilà, stocker quelques centaines de vinyles de mes propres productions, ça, ce n'est pas vraiment un gros pactage en plus. Voilà. Mais oui, il faut faire attention. La qualité du disque, quand tu livres sur Bandcamp ou Discogs, c'est un peu, les gens sont assez précieux et peuvent vite t'emmerder si c'est pas la description exacte de ce que tu as dit. Donc c'est un peu compliqué.
Donc, pour résumer, on met de l'argent de sa poche, ouais, c'est ça. On s'arrange avec un groupe qu'on aime bien, voilà. on trouve un logo. Un graphiste, éventuellement, c'est quand même mieux, pour donner une image. On renvoie tout ça à l'usine, on reçoit la marchandise qui est stockée où on peut, si j'ai bien compris. Une partie part chez le distributeur, qui lui va le déposer dans les magasins, ou on va le déposer nous-mêmes dans les magasins, je crois qu'aussi, puisqu'il reste de moins en moins de magasins aussi, ça en parlera. Et puis, bah, y a toute une série de tâches alors, dont vous allez nous parler, pour que les gens puissent... On puisse informer quelles sont ces tâches qu'un label indépendant doit fournir au niveau de la promo, au niveau des envois, etc. Est-ce qu'il y a une journée d'un label indépendant, ce rythme comment ? Enfin, peut-être une soirée même après journée.
Moi, je ne travaille qu'en soirée, donc. Donc, voilà. Mais oui, donc, il faut faire le suivi de la promo. Donc, en général, moi j'utilise des boîtes de promo indépendantes qui essayent de placer, tant bien que mal, la musique dans un espace médiatique de plus en plus restreint. Jour le jour, ça devient vraiment une catastrophe, je trouve. Donc, c'est les magazines online qui diffusent ce genre de musique sont en train de mourir les uns après les autres ou bien rachetés par Vice, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut updater les gens, essayer d'avoir des bonnes databases de newsletters et vendre sur Bandcamp ou au concert, voilà, ça c'est un peu le, et essayer évidemment de placer un maximum de musique en synchro, et c'est là où il y a un peu d'argent.
Le soir à ma maison, bah, il y a beaucoup de promos, un peu comme Monsieur Mugboom ici vient de le décrire, donc il y a énormément de suivi à faire. Si possible aussi, ça c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps, un petit peu sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que voilà, nous on travaille sur certains genres de musique, il y a un certain type de presse qui va avec. L'idéal, c'est forcément de ne pas se cantonner à ça. Maintenant, la presse, c'est assez amusant aussi, point de vue promo, c'est qu'il n'y a jamais de limite. On peut toujours avoir plus, on peut avoir des blogs en Malaisie, des magazines au Pérou, ou Dieu sait quoi. Donc c'est un travail qui n'est jamais terminé. Et qui demande en permanence du développement. J'ai envie de dire, si on touche un petit peu au booking, c'est un petit peu la même chose. C'est beaucoup plus facile de gérer du booking quand on a été dans les salles, on a rencontré les gens des salles. Subitement, on devient quelqu'un qui appelle et qui va demander quelque chose plutôt qu'un gars qui envoie un mail qui s'avère être un des 350 mails que le récipiendaire recevra ce jour-là. Donc il y a pas mal de promos, il y a aussi tout ce qui est suivi, gestion des droits, donc avec la SABAM, la CIMIM et autres, il y a pas mal de questions de distribution. Ça, à mes yeux, en tout cas pour une petite structure, c'est ce qui est le plus casse-pied à gérer, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui travaillent sur des pressages vinyles, par exemple, de 3, 4, 500, peut-être même 700 ou 800 copies. On ne peut plus du tout avoir l'approche à l'ancienne de se dire « Ok, on a un distributeur, on va lui demander, on veut ça dans tous les magasins. » Pour une raison très conne, c'est qu'en fait, il n'y a pas la quantité nécessaire pour avoir ce genre d'approche, en tout cas si on travaille sur plusieurs territoires. Et qu'en cas de succès, et nous, ça nous est arrivé au moins une fois, on s'est retrouvé dardard à devoir recontacter plein de gens pour leur demander « Ok, les disques à nous que vous avez chez vous, est-ce que vous pouvez nous les renvoyer ?» Parce que nous, on peut les vendre et visiblement pas vous. Donc, pour moi, ça, c'est le plus gros casse-tête, en fait, en termes de petite structure. C'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on va saupoudrer ça de manière à ce que nos disques soient là où on pense qu'ils peuvent être achetés, sans pour autant perdre une fortune à essayer de les envoyer à des endroits qui ne sont pas nécessairement clés. Sachant que c'est une sorte de paysage qui change en permanence, de surcroît. Donc oui, moi je dirais c'est essentiellement promo, distribution, les droits et un petit peu de booking dans certains cas, en tout cas en ce qui nous concerne.
Je rejoins Didier, c'est beaucoup de travail de promo, de plus en plus, pour de moins en moins de résultats, j'ai envie de dire. Vu qu'il y a vraiment une explosion des canaux où il faut diffuser l'information, que ce soit au niveau des blogs, des réseaux sociaux, puis des médias traditionnels. Je vois vraiment la différence par rapport au début du label, où c'était nettement plus simple, entre guillemets. Il y avait moins d'opportunités, mais tout était plus simple. C'est-à-dire que les créneaux étaient simples. On pouvait prendre un attaché de presse qui allait travailler les médias traditionnels, la radio, les débuts des blogs et compagnie. Et on pouvait, entre guillemets, déjà faire pas mal rien qu'avec ça. Maintenant, avec ça, on est vraiment nulle part, quoi. La presse classique ne fait plus du tout, en tout cas en Belgique, ne fait plus du tout de vendre de disques. Donc il faut vraiment trouver des astuces pour diffuser sa musique au mieux en étant présent sur YouTube, sur toutes les plateformes, et ça prend énormément de temps, c'est hyper chronophage. Donc pour ma part, en tout cas ces derniers temps, c'est vraiment là-dessus que j'ai passé énormément de temps. Par exemple, remettre tout le catalogue du label sur YouTube de manière adéquate, avec les bons hashtags, des bêtises comme ça, mais qui sont vraiment... c'est obligatoire de le faire. Donc ça, c'est vraiment hyper chronophage. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me prend le plus de temps ces derniers temps. Et alors, quand même aussi pas mal de travail administratif. Parce que dans le suivi des projets, des artistes qu'on fait, en général, s'il y a des demandes de subsides et tout ça, on fait les suivis. Puis voilà, il y a toute la comptabilité, les choses liées vraiment à la structure. Donc, je dirais que la promo et l'administratif ont pris malheureusement un peu la place de l'artistique, en tout cas pour moi, dans le sens où maintenant c'est beaucoup plus de, comme je disais, de licences. Et avant, on prenait plus le temps vraiment de produire les disques et d'être impliqué, d'aller en studio. C'est moins le cas maintenant. Enfin là, maintenant on travaille par exemple sur le nouveau VO et c'est un peu, on retravaille un peu comme ça, mais c'est moins courant qu'avant, quoi.
Qu'est-ce qu'une sortie réussie pour un label indépendant comme le vôtre ? Je veux dire, c'est quoi ? C'est un objectif qui est réussi ? On pourrait parler par exemple du cas de La Jungle, qui est quand même une certaine réussite pour toi Didier, enfin je pense pour Black Bassett. En tout cas, c'est un groupe qui tourne beaucoup et qui est le disque d'être pressé. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience.
Oui, effectivement, même si de manière surprenante, c'est pas La Jungle la meilleure vente chez nous, en fait, qui s'avère être Quadrupède, qui est un groupe français. Mais dans le cas de La Jungle, oui, tout a commencé sur une blague entre deux copains, dont l'objectif premier était, OK, On va faire 10 concerts tendance noise, sans doute dans des squats et autres, et on en restera là. Je pense qu'il y a eu une particularité, c'est qu'il y a eu une prise de vitesse, parce que subitement, c'était une musique qui, à mon avis, était à même de toucher un public qui n'était pas le public cible du début. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent de l'électro, de la techno, qui se sont retrouvés dans la jungle. Et puis effectivement, oui, de fil en aiguille, ça a pris énormément de vitesse. Et voilà, en 3 ans, je pense qu'ils ont joué environ 230 concerts un petit peu partout. Et on commence de surcroît à pouvoir les envoyer sur des territoires dans lesquels ils n'ont jamais été. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu un enchaînement de surprises, de bonnes surprises et de succès inattendus. Mais ce n'était pas du tout le plan de départ. Et là-dessus, moi, je ferais même une parenthèse qui est assez inhérente avec tous les projets avec lesquels on travaille, c'est que de toutes les sorties Black Bassett Records, à une seule exception notoire, on a toujours travaillé avec des gens qui avaient un emploi, hein, des jobs, voire des mômes, une maison à payer et autres. Et que donc, les objectifs, ils sont très difficiles à définir. Je veux dire, on a même un groupe, Mondoré en l'occurrence, où on a comme instruction très claire de « on ne jouera pas plus de 20 concerts par an ». Même si les opportunités, c'est là, on ne les prend pas, on ne les fait pas. Faute de temps, donc définir un objectif, en fait, c'est très amusant, parce qu'une sortie réussie, je ne sais pas exactement ce que c'est. Oui, forcément, si on fait un pressage, on a envie, un pressage vinyle, une sortie CD, on a envie que tout se vende. On a envie que le groupe joue un maximum, si possible, dans des dates ou des lieux qui, pour une raison X ou Y, nous tiennent plus à cœur. Mais je ne pense pas qu'on ait jamais sorti quoi que ce soit en se disant « Ok, avec ça, on va casser la baraque, demain, on est riche, on va le represser 153 000 fois. » Non, c'est jamais arrivé, mais je pense que c'est aussi inhérent, dans notre cas en tout cas, au type de projet avec lesquels on travaille.
Bah pour moi, je dirais une sortie réussie. Enfin, ce que je veux dire est un peu étrange, mais c'est en tant que label, c'est pas en nombre de copies vendues, mais je dirais que c'est vraiment en termes de visibilité du groupe. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille plus vraiment sur des disques, mais sur des projets, quoi. Et que le but, c'est de donner de la visibilité à ce projet. Et dans un deuxième temps, d'arriver par cette visibilité à vendre de la musique et les faire tourner. Et pour moi, c'est de cette manière-là que je vois les choses, en tout cas. Que je conçois les choses, alors qu'avant, c'était vraiment plus d'abord le disque, et puis tourner et compagnie. Maintenant, c'est vraiment d'abord la visibilité. Ouais, je pense par exemple à Mountain Bike, et ouf, on n'a pas vendu des tonnes de disques du tout, mais par contre, je suis content du parcours qu'ils ont fait, quoi. Je suis content des concerts qu'ils ont eus, de la visibilité qu'ils ont eue. Je pense qu'ils ont touché les bonnes personnes au bon moment. Donc je pense que pour moi, c'est une sortie réussie dans ce sens-là.
Et toi, au niveau, une belle réussite chez Stopfield?
Moi, j'en ai pas vraiment eu, on va dire. Mais moi, je pense que les réussites d'un projet, c'est l'écho qu'il rencontre, et évidemment la visibilité, les dates, ou si c'est un truc électronique, les DJ. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. On fait pas ça pour rien. De toute façon, si moi je rentre dans les frais du pressage et de la promo, je suis très content. Et si j'arrive à faire des licences en plus, c'est de l'argent que je peux utiliser pour sortir d'autres disques, et c'est ça qui m'intéresse. Donc la dynamique ici, c'est vraiment de faire un truc vivant, de dire quelque chose, et que ça puisse rencontrer un écho significatif, ou même juste sortir de terre, c'est bien. Voilà, moi je suis très content de la promo que j'ai eue avec mon album précédent, et là ça s'annonce correctement, donc on va voir derrière. On a pas mal de dates, et j'ai déjà des signatures d'autres artistes belges en tête. Je suis en train de discuter avec des gens, donc voilà, j'essaye. Le chemin se révèle au fur et à mesure.
L'autre projet aussi, c'est de transformer ton univers en version live avec un groupe qui est quasi plus un groupe électronique, là. Enfin,
c'est plus du tout électronique. En fait, c'est les limites que j'avais sur le live précédent, qui était vraiment une transposition des pistes de studio sur lesquelles les musiciens jouaient, ça m'a gonflé sur la longueur parce qu'il n'y avait pas moyen vraiment de que ça vive justement. C'était plus ça devenait du karaoké et ça m'intéressait pas du tout. Et puis j'ai fait pas mal de scènes où j'ai vu des groupes qui m'ont vraiment plu et je voulais faire ça parce que voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi et genre, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc du coup, on a monté un vrai groupe avec qui on a écrit à quatre toute la musique et j'ai saupoudré un petit peu d'électronique après que ça a été créé. Et là, maintenant, on joue sans ordinateur, il n'y a pas d'Ableton. Je fais les synthés et la voix, et puis basse, guitare et drums. Il y a quelques séquences légères qui saupoudrent le truc, mais très, très peu. Et voilà, on verra où ça nous mène. Là, on a une dizaine de dates, on va voir.
Est-ce que c'est important pour vous aussi, Didier Christophe, le live, d'avoir un artiste en live? Est-ce que c'est là que vous dites je vais signer et sortir le disque, ou le disque suffit en lui-même? Quelle est votre approche quand vous sortez un artiste?
Ben, pour MTDMT, il y a deux approches différentes. Il y a vraiment il y a des albums qui vivent en tant qu'album et dont je sais qu'ils n'auront pas spécialement de vie sur scène, parce que c'est des projets plus studio, plus expérimentaux, qui n'ont pas vocation à vraiment tourner, quoi. Donc après, j'ai envie de continuer à défendre aussi ce genre de projet, mais clairement, c'est devenu de plus en plus risqué de faire ce genre de truc. L'importance du live est vraiment exponentielle, et je le vois clairement en chiffre de vente. C'est le live, c'est le meilleur magasin de disques, ça, y a vraiment aucun doute là-dessus. Donc prioritairement, c'est clair que c'est hyper important d'avoir des groupes qui tournent pour pouvoir vendre du disque, quoi. Après, j'ai envie de continuer à me permettre ce luxe de pouvoir aussi faire des projets qui sont complètement studio et ou juste voilà, c'est la musique pour la musique, quoi. Donc voilà, on est sur les deux approches.
Nous, c'est un petit peu la même approche. Bon, forcément, il faut qu'on soit convaincu par le projet en live, mais a posteriori, et ça, je pense que c'est devenu une condition sine qua non, il faut absolument que ce soit des projets qui tournent. Je pense que là où ça n'a pas marché, c'est des groupes qui ne jouaient pas pour des raisons X ou Y, qu'elles soient financières, techniques ou de disponibilité. Mais effectivement, comme l'a dit Christophe, je pense jouer, ça augmente la visibilité, ça, c'est le meilleur magasin de disques du monde, avec les plus grosses marges pour un label et pour un groupe. Et nous, en tout cas, on l'a vu au moins une fois, et je pense qu'on pourrait même dire deux fois avec La Jungle, on peut avoir des effets rebonds très surprenants. Donc avec Quadrupède, en fait, qui est un groupe français, au début, ça marchait sans plus en France, puis on a réussi en fait à les placer sur un gros festival au UK, qui a amené un booker pour le UK, puis deux tournées là-bas. Et donc un an après la sortie de l'album, ce qui a été très amusant, c'est que subitement on a eu des magazines comme Tsugi ou comme Les Uns Rock qui nous ignoraient royalement, qui nous ont contactés directement en disant « Ok, il faut qu'on fasse des pleins de pages sur le groupe et autres ». Et puis là, la machine s'est mise en marche en France. Et c'était simplement une sorte de réflexe un peu protectionniste de « ces gars sont de chez nous, ça a l'air de marcher, c'est les Britanniques, là où d'habitude ça ne marche jamais, donc on a loupé quelque chose, il faut qu'on revienne dessus ». Mais on va être honnête, ces gens, on les avait contactés en première vague, ça n'avait rien donné, ils nous répondaient même pas. Donc là, ça a donné une deuxième vague qui a fait qu'on a pu represser l'album, ils ont pu retourner en France de manière beaucoup plus extensive et de manière beaucoup plus confortable et mieux rémunérée. Donc oui, le live, c'est vraiment clé.
Pour terminer cet entretien formidable, je vous remercie, hein, je vous remercie, qui sera réécoutable en podcast sur radiorectangle.be. Si vous deviez choisir là maintenant, pour partir sur une île déserte, la meilleure production de votre label, ce serait quoi? C'est complètement subjectif, évidemment. Est-ce qu'il y a, pour donner l'envie aussi, un disque phare, pour plusieurs raisons, qui te tient à cœur?
Mon nouvel album.
C'est cliché, mais je prendrai la dernière sortie aussi, donc Jean-Jean. Jean-Jean, un groupe de Paris, qui part aux États-Unis dans 5 jours, monsieur. On n'est pas peu fiers.
Moi, je prendrais le plus atypique, c'est un vinyle de Sauce of No North, psyché, instrumental. Je pense que sur une île déserte, ce serait pas mal.
On peut prendre les questions du gentil public? Est-ce que le gentil public a des questions? On va faire comme dans les émissions télé.
En ce qui concerne le topic de la conférence maintenant, je me demandais, au début, quand vous avez créé vos labels, comment est-ce que vous avez fait pour rentrer en contact rentrer en contact, avoir tous les contacts nécessaires que pour pouvoir, je sais pas comment dire, s'expandre, pouvoir accepter les projets qu'on vous proposait, la musique, et puis la faire tourner au maximum. Parce que maintenant, de plus en plus, les groupes peuvent enregistrer, faire le mixing, le mastering. Et après, la différence avec les labels, c'est qu'il n'y a pas les contacts, en fait. Du coup, comment est-ce qu'on fait au début, si on veut lancer un label, pour arriver à rentrer en contact avec toutes ces personnes qui peuvent nous permettre de distribuer, oui.
Moi, dans mon cas, j'avais déjà ces contacts, donc parce que j'ai travaillé dans quelques labels et tout. Donc, si on se lance dans un milieu professionnel, c'est bien de pas y aller à l'aveugle et de faire ces petites recherches et de connaître un peu la topographie des distributeurs, des labels et un peu connaître. Les manières de faire, parce que sinon vous allez être sur des murs, quoi. Donc il faut beaucoup de recherches le soir à votre maison, voilà.
Moi je dirais qu'il faut commencer petit et se créer un réseau autour de soi en commençant. Enfin, maintenant, si je devais commencer, je ferais comme ça. Je pense que je ferais vraiment un truc de manière très DIY, en essayant de créer vraiment une communauté, réseaux sociaux, tout ça, en contactant les blogs, en essayant d'avoir un peu de visibilité sur les blogs, dans la presse, via les groupes qui tournent, et puis petit à petit, comme ça, accumuler la matière, les articles de presse, ouais, c'est ça, avoir un bon Bandcamp, des trucs comme ça, accumuler les articles de presse, les dates de tournée, et à ce moment-là, commencer à démarcher des agents, des distributeurs et tout ça. Mais c'est clair qu'avec, je pense que de toute façon, il faut avoir un minimum de références dans son catalogue pour pouvoir vraiment commencer à distribuer. Après, par contre, il y a moyen, via parfois des sites qui font de la vente en ligne, de déjà, avec une ou deux, trois références, de commencer à vendre par là, par Monday ou des trucs comme ça. Il y a moyen, je pense, de faire des choses très DIY et puis de faire gonfler le truc petit à petit. Mais il faut prendre le temps et je pense pas trop dépenser d'argent. Et il y a quand même beaucoup d'opportunités, de fait, des réseaux sociaux, des machins, des nouvelles. On peut toucher énormément de gens. Après, je pense que toucher les professionnels et tout ça, ça vient après. Il faut commencer par augmenter ses cercles et voilà.
Bandcamp, c'est, je crois, pour essayer de commencer à avoir justement un petit peu de release. C'est une bonne démarche initiale.
Justement, j'ai une question qui est en lien avec Bandcamp et puis les sites en ligne. En fait, je voulais juste savoir quelle était un petit peu la proportion des revenus du label entre les ventes physiques en concert ou en magasin, puis éventuellement les ventes en ligne de CD et puis les ventes digitales si vous en faites. Et voilà, quelle est un peu la proportion et quels sont les revenus, voilà.
Je pense que c'est très variable, en fait, déjà d'une sortie à l'autre, en tout cas en ce qui nous concerne. Moi, j'aurais quand même tendance à dire, c'est difficile pour moi de donner des pourcentages comme ça à la volée, mais j'aurais tendance à dire, ouais, 30-40% facilement par les ventes physiques au concert. Bandcamp est très important chez nous, notamment de par les problèmes de distribution dont j'ai parlé plus tôt. Il faut savoir, un distributeur physique doit aussi prendre sa marge, donc classiquement un disque qu'on va trouver à 20 euros chez un disquaire va ramener 6, 7, 8 euros si tu as beaucoup de chance au label, puisque tant le disquaire que le distributeur doivent prendre leur marge. Donc oui, Bandcamp, si je devais donner un pourcentage, je dirais sans doute 20-25%, et encore je pense qu'en Belgique on est horriblement freiné de par le fait qu'on a des tarifs postaux absolument prohibitifs. Et que souvent, il faut dire à des gens qui ne sont pas belges, ok, si tu achètes un vinyle chez moi, tu vas payer deux fois son prix parce qu'il y aura les frais de port. Généralement, on essaie de contrer en disant, mais les frais de port sont les mêmes si tu en achètes deux. Et là, les gens ont l'impression qu'on est en train d'essayer de les escroquer et de leur refiler une vente forcée. Donc, oui, Bandcamp. Et puis, il y a quand même une part pas si négligeable que ça qui vient du digital et aussi de tout ce qui est droits voisins et autres qui nous sont payés par la CIMIM. Voilà. Pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
Bah pour ma part, je dirais que la première vente, c'est le physique de toute façon. Et c'est d'abord les concerts, et puis la distribution en magasin, et puis Bandcamp. Et la distribution, enfin la vente online via le label, je suis pas encore vraiment au top là-dessus. Et en effet, je pense qu'on est fort freiné par les frais de port qui sont vraiment monstrueux sur la Belgique, quoi. Le prix pour envoyer un vinyle, c'est en France, c'est genre, je sais plus, ouais, plus de 10 euros. Hein. 13 euros, ouais. Donc voilà. Donc c'est, nous, on vend à 15, ça te fait 28 euros, quoi, si tu habites en France. Donc ça devient un peu chaud. Ou alors, finalement, le plus de commandes qu'on a sur Bandcamp, c'est des commandes groupées. Et là, ça devient intéressant. Si tu fais, si t'achètes 2-3 trucs, si t'achètes 3 vinyles et que t'as 13 euros de frais de port, là, t'arrives à un prix qui reste raisonnable. Mais ça devient vraiment problématique pour certains, pour vendre des trucs, quoi. On le voit clairement, on reçoit des messages de gens qui disent que c'est trop cher, quoi. Et sinon, dans les revenus, une part non négligeable aussi qui revient de l'édition. Donc, c'est-à-dire que en tant que label, on est aussi éditeur de certains projets, c'est-à-dire qu'on prend une part de droits d'auteur. Et quand il y a des projets qui tournent pas mal, ça fait quand même des revenus. Ça fait un petit un revenu qui permet d'avoir un peu plus d'investissement sur les projets, quoi. Donc dans la balance, c'est quand même assez important. Et alors un peu de synchro de temps en temps sur l'un ou l'autre projet. Donc une musique qui sert pour une publicité ou dans l'audiovisuel, sur un film, un court-métrage. Ça permet aussi de rentabiliser les projets sur le long terme.
Oui, moi, c'est un peu différent parce que moi, j'ai un deal de distribution de licence avec K7, donc c'est eux qui vendent principalement la majorité de nos sorties. Et je vends un petit peu, mais vraiment de manière très confidentielle, sur Bandcamp, aussi freiné par le coût des envois postaux. Et alors il y a des avances d'édition que j'ai réussi à avoir parce que j'ai un éditeur qui je fais de la sous-édition avec lui et il m'aide pas mal, mais pas plus que ça.
Donc l'édition, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le publishing, c'est la gestion des droits d'auteur. Donc ça ne concerne pas l'enregistrement, mais c'est la part de l'auteur, du compositeur. Donc un éditeur, son boulot, qui n'est pas celui d'un label, c'est de gérer l'exécution de ses œuvres, de vérifier que ses œuvres, quand elles sont diffusées, génèrent des rentrées auprès des sociétés de collecte de droits d'auteur, comme la SABAM en Belgique, la SACEM en France, Bumra Stemra aux Pays-Bas, etc., quoi, PRS en Angleterre. Donc c'est, l'éditeur, il doit, son travail, c'est de déposer les œuvres, etc., mais c'est aussi de gérer donc, cette exploitation. Et dans le cas de musiques qui sont placées en synchro, il y a aussi un travail d'éditeur derrière qui est de gérer ça, quoi. Donc ça, c'est l'éditeur. Les labels ne sont pas obligés de l'être, mais s'ils le sont, c'est vrai que c'est des revenus qui reviennent donc sur les droits d'auteur, mais il faut gérer tout ça aussi. Donc ça prend du temps aussi. Hein, ça, si on s'ajoute cette partie d'éditeur, c'est un travail non négligeable, parce qu'il faut aller, quand il y a un concert, par exemple, il faut vérifier que le concert a bien été déclaré, que les titres joués, etc. S'il y a un pressage, il faut vérifier que les droits qui sont payés pour presser soient bien renvoyés aux bonnes personnes. Donc il y a tout un suivi de travail. C'est beaucoup d'administratif. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs et des labels. Mais souvent, dans les structures plus petites, on fait les deux parce que c'est une manière aussi de... Ou de la sous-édition, c'est une manière de... Donc c'est-à-dire on demande à un éditeur d'être... travailler avec nous, mais c'est une manière de configurer un catalogue aussi, quoi, de chansons et de master.
Oui, moi je travaille avec un éditeur qui fait tout ce boulot et moi je signe un petit peu aussi des artistes pour lui et j'essaye de placer des musiques en synchro. Le travail administratif, c'est pas moi qui le fais, donc sinon ce serait vraiment assez compliqué. Mais j'envoie dans les tuyaux, en fait. Voilà.
D'autres questions
Bonsoir. Donc, distribution via des plateformes comme TuneCore, par exemple, c'est des choses super accessibles pour des jeunes groupes qui n'ont aucune connaissance d'un réseau de distribution un peu plus pro, on va dire. Donc, on distribue nos trucs via ça. Et on a cette espèce d'option de monétisation YouTube. Et c'est un truc complètement flou que moi, j'arrive toujours pas à vraiment comprendre. Est-ce que Vous pourriez nous éclairer sur ce genre de truc ? Est-ce que ça représente quelque chose dans l'absolu ?
Oui, donc quand tu distribues ta musique via un agrégateur numérique, comme TuneCore ou d'autres, donc tu rentres une série de données dans une fois que tu t'es inscrit, tu dois rentrer une série de données, envoyer les fichiers son, etc., mettre des codes, le nom du morceau, des endroits. Tout ça donne après, à l'arrivée, une empreinte digitale du titre. Et cette empreinte digitale, elle est envoyée sur toutes ces plateformes. Et YouTube, depuis déjà un certain nombre d'années, ont créé ce qu'on appelle un Content ID, qui est en fait pour gérer les plaintes, etc. Ou en tout cas gérer les gens qui mettent des titres sur leurs vidéos qui ne leur appartiennent pas. Donc le robot de YouTube va repérer cette empreinte digitale et va dire, voilà, si quelqu'un met ta musique avec une vidéo de chat, je ne sais pas, le robot va repérer que c'est ton empreinte digitale via l'agrégateur et va dire à la personne, envoyer un mail, attention l'ami, tu as utilisé une musique qui n'est pas la tienne, mais il n'y a pas de souci, tu peux la laisser. Pourquoi ? Parce que toi, tu as dit, ok, je veux qu'elle y soit. Et en fait, quand il y aura des publicités qui vont se mettre sur cette vidéo, avant, il y a une partie donc, qui est monétisée. Quoi. Mais tu peux dire aussi, je ne veux pas que n'importe qui mette cette musique-là. Dans ce cas-là, tu actives dans le Content ID une clause qui dit hors de question que cette musique soit mise sur YouTube. Mais elle se fait automatiquement par l'agrégateur. Donc le robot repère et le met. Ce qui est intéressant, parce que c'est-à-dire que si tu as 250, 2000, 2 millions de personnes qui vont commencer à taper ta musique sur leur vidéo, bah, le robot va le repérer et donc monétiser pour toi la part du son. Quoi. Voilà.
Il y a des chaînes qui ont été démonétisées aussi.
Alors, il y a des chaînes qui ont été démonétisées, il y a toute une série de choses qui changent chez YouTube. Il y a aussi le fait que tu as la monétisation du son par l'agrégateur, et puis tu as les chaînes partenaires qu'on appelle, qui elles monétisent l'entièreté de leurs vidéos, images et sons. C'est le cas par exemple des YouTubers, etc., de leur format aussi. Mais dans la musique, généralement, à moins d'avoir un nombre d'abonnés qui est maintenant, je crois que c'est de 1000, conneries. Ils ont changé leurs conditions. Voilà, à ce moment-là, tu n'as que la part son monétisée et plus l'image. Quoi. Donc, voilà, c'est des conditions qui changent.
C'est pas des revenus de fou si tu commences à faire de la musique.
Maintenant, si tu veux que cette part ne soit pas monétisée sur YouTube, tu peux le dire à ton agrégateur. Tu peux lui dire, voilà, moi, je préfère monétiser ma chaîne en direct. Et donc ne pas passer par le système Content ID, c'est possible, mais il faut leur dire. Quoi. D'autres questions ou on termine cette petite séance ? Voilà, merci beaucoup d'être venu et on réécoutera tout ça donc attentivement sur radiorectangle.be, notre web radio de podcast. Merci à vous en tout cas. Merci.